Bonsoir à toutes et à tous. C'est vendredi, c'est le Club des idées du grain. Ce soir, les gilets jaunes veulent-ils plus ou moins de démocratie? Selon le principe des montagnes russes, le mouvement des gilets jaunes provoque des réactions qui vont du rejet à l'empathie et de l'empathie au rejet dans un cycle ininterrompu qui finit par donner le tournis. Alors où en est-on aujourd'hui? La veille de la nouvelle mobilisation prévue notamment à Paris, c'est l'inquiétude qui domine. La plupart des responsables politiques et syndicaux ont lancé un appel à manifester dans le calme pour préserver les institutions républicaines. Est-ce à dire que la démocratie est en danger? Dans leurs revendications, les gilets jaunes critiquent la démocratie représentative, mais revendiquent d'autres formes plus directes, comme par exemple le référendum d'initiative populaire. C'est un appel au renouvellement des pratiques, mais qui côtoie cet appel d'autres appels, cette fois pour renverser le système par la violence si nécessaire. Alors les gilets jaunes veulent-ils plus ou moins de démocratie? On en discute ce soir avec deux des membres de notre club. Aude Lancelin, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice de la publication du Média TV. Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir.
La suite dans les idées, c'est le samedi sur France Culture à 12h45. Et vous dirigez le site AOC, analyse, opinion, critique. Et puis l'invité du club ce soir, c'est Jérôme Fourquet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, directeur du département opinion de l'IFOP, membre de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Votre dernier ouvrage, c'était aux éditions du Cerf cette année, Le Nouveau Clivage. Alors une fois n'est pas coutume, ce n'est pas notre invité que je vais poser la première question, mais à Sylvain Bourmeau et à Aude Lancelin, puisque vous étiez déjà là vendredi dernier. On a parlé des gilets jaunes, on parlait de la critique des médias qui pouvaient tourner à la haine. C'était pas uniquement sur ce mouvement, mais enfin, on en a quand même beaucoup parlé. Moi, j'aimerais savoir si l'un et l'autre, votre vision de ce mouvement a évolué, a changé depuis une semaine, et si oui, en quoi, Aude Lancelin?
Moi, il se trouve que j'ai suivi, dans le cadre de mes fonctions, ce mouvement tous les samedis sur le terrain, dans le quartier des Champs-Élysées et à la Concorde la semaine dernière. Ce qui est très frappant, c'est la montée en puissance de la violence, hein, qui était très spectaculaire. À cet égard, demain est un véritable saut dans l'inconnu. Je ne sais pas à quoi ressemblera la France demain soir, mais je crois qu'on en est vraiment à devoir se poser ce type de questions.
Il peut y avoir une forme d'exaltation devant l'inconnu ou une forme d'inquiétude. Vous penchez plutôt de quel côté, vous ?
Bien sûr, je suis inquiet pour les gens qui seraient amenés à payer de leur vie ou de leur intégrité physique plus de justice sociale. Évidemment, je suis inquiet pour eux. Ce qui m'inquiète, c'est de voir un pouvoir, pour moi, irresponsable, ne pas avoir anticipé déjà il y a 4 semaines la violence des revendications et de ne pas avoir pris immédiatement les mesures qui s'imposaient. J'ai le sentiment, j'espère me tromper, j'ai le sentiment qu'on va vers une période de répression policière dure. Je pense que Emmanuel Macron, à l'heure où on se parle, est face à un choix historique, une lourde responsabilité personnelle, et j'espère qu'il en prend toute la mesure.
Sylvain Bourmeau, est-ce que les choses ont changé en une semaine, et est-ce que votre appréciation a changé également?
Les choses ont considérablement changé, mais c'est le propre de tout mouvement de ce type que de connaître une dynamique. Ce serait une erreur de le figer dans le temps. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, d'être capable au jour le jour d'évoluer, de voir évoluer cette dynamique. Est-ce qu'on se dirige vers une crise politique au sens le plus précis du terme, celui qui a été par exemple théorisé par Michel Daubry dans la sociologie des crises politiques, c'est-à-dire il les définit comme des moments de fluidité politique, c'est-à-dire des moments où la société d'habitude elle est organisée en secteurs qui sont différenciés, des sphères d'activité, la politique, l'économie, le droit, etc. Et une crise politique c'est caractérisé par des moments où les frontières entre ces secteurs tombent et où il y a une grande fluidité. On n'en est pas encore là, même si on a vu à côté du mouvement de départ, celui des Gilets jaunes, d'autres types de mobilisation sur d'autres revendications, et je pense en particulier aux lycéens, démarrer en écho, non sans lien, même si, encore une fois, ce n'est pas exactement la même chose. Et donc la question, c'est comment tout ça peut s'articuler ou non ? Est-ce qu'il y a une forme de montée en généralité ? Est-ce qu'il y a un travail politique élaboré pour ce faire ? C'était très précisément ce qui s'est passé en mai 68. Mais si ça s'est passé en mai 68, c'est parce qu'il y avait des organisations pour procéder à ce travail politique. Là, on est dans une situation très inédite parce que, au fond, il n'y a pas d'organisation au départ qui porte la première des manifestations. Donc, voilà, il y a une. Je réfléchissais comme ça ce matin. Je me disais, mais au fond, est-ce que j'ai déjà connu moi dans ma vie une situation politique qui me semble aussi imprévisible? Et la réponse tout de suite qui m'est venue, c'est probablement mai 68, mais j'avais 3 ans, donc je n'en ai aucun espèce de souvenir. Mais depuis, non, je ne vois pas. Et je suis inquiet des discours qui annoncent la violence. Et les discours qui annoncent la violence nous viennent de beaucoup d'endroits différents. Ils viennent des manifestants, ils viennent aussi du gouvernement, voire du ministre de l'Intérieur. Ils viennent d'un certain nombre d'observateurs. Et il y a quelque chose de l'ordre de la prophétie autoréalisatrice qui m'inquiète dans ces discours. Hier, c'était l'anniversaire de la mort de Malik Houssekine.
1986.
Alors là, j'avais pas 3 ans, j'en avais un peu plus, c'était il y a 32 ans. Je m'en rappelle très bien, j'étais étudiant. Cette mort...
C'était les lois de... Enfin, manifestation contre les lois de Vaquet.
Et cette mort a fait basculer complètement le mouvement, le gouvernement. Enfin, un mort dans une manifestation, c'était quelque chose de terrible. Et là, je suis très inquiet du fait qu'il y a déjà plusieurs morts. Et il semblerait que, contrairement à la loi qui veut, selon le procès de civilisation, qu'on s'habitue de moins en moins à ce genre de mort, on est régressé. C'est-à-dire qu'on n'est plus surpris, on n'est plus choqué qu'un mort dans des mouvements sociaux ne provoque plus ce que ça provoquait il y a 32 ans. Ça, je trouve ça très inquiétant pour ma part.
Alors j'aimerais savoir si vous, Jérôme Fourquet, j'en viens donc à vous, je rappelle, vous dirigez le département Pignon de l'IFOP, parce que vous, déjà, vous partagez cette inquiétude. Et est-ce que cette inquiétude-là, elle existe aussi, elle transparaît à travers les enquêtes que vous réalisez en ce moment autour de ce mouvement et de sa perception?
Alors, oui, objectivement, il y a de quoi être inquiet. Pour ce qui est du regard que porte l'opinion publique, en tout cas les Français sur ce mouvement, et plus particulièrement sur le rapport à la violence, on a posé une question cette semaine à la suite des scènes d'émeutes qui ont enflammé Paris le week-end dernier, et donc on a 70% des Français qui condamnent sans ambages ces violences. Donc c'est beaucoup. Mais on peut se dire d'un autre côté qu'il y a quand même 30% de Français qui soit, donc les formulations qu'on proposait, c'est approbation, c'est 4 ou 5%, soit qui comprennent sans approuver. Donc un tiers, c'est beaucoup. Néanmoins, quand on avait posé ces questions en 2008, en 2009, au moment où des salariés qui étaient licenciés menaçaient de faire sauter leur usine, on avait une compréhension qui était bien plus forte d'une violence potentielle. Idem quand deux cadres dirigeants d'Air France s'étaient fait arracher leur chemise. On avait beaucoup plus de Français qui comprenaient, sans excuser, mais qui comprenaient cette violence. Donc il y a quand même une certaine inquiétude, un refus de la violence qui est très majoritaire dans la société française.
Pour autant, c'est un mouvement qui reste quand même assez populaire.
Et pour autant, après les deux week-ends de violence, le soutien et la sympathie au mouvement n'a pas régressé. Donc ça interroge quand même sur l'état de l'opinion et le climat social. Si on regarde plus précisément, on a à peu près 18% de Français qui se considèrent aujourd'hui comme gilets jaunes. Ils disent voilà, moi je suis gilet jaune. Alors ils n'ont pas forcément été sur les ronds-points ou au carton avec les CRS le week-end dernier, mais ils ont pu mettre le gilet en évidence sur le tableau de bord de leur voiture, où ils ont pu se sentir très sympathisants. Sur ces 18%, il y en a simplement 50% qui condamnent la violence. Donc on voit bien qu'il y a une base de sympathisants qui s'est radicalisée. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est lors de la première journée de mobilisation, le 17 novembre, on a un premier décès dès 9h le matin, relayé sur toutes les chaînes info. Alors à la différence de 68 ou de 86, il y a eu plusieurs morts ensuite dans ce mouvement, mais c'est pas des morts dans le cadre d'affrontements avec les forces de l'ordre. Ça change quand même pas mal la donne. Mais néanmoins, on est sur un public qui, tous les témoignages le disent, ne s'est jamais mobilisé, qui est pas manifestant habituellement, qui est pas syndiqué.
Il y a quand même quelqu'un qui a pris une grenade à son balcon.
Oui. Non, mais je dis pas qu'il n'y a pas de casse, mais il n'y a pas eu de mort dans les affrontements. Pour autant, ce public qui n'a pas l'habitude de la manifestation, eh bien, s'est lancé massivement dans des actions dangereuses, hein, occuper un rond-point, bloquer une autoroute, alors que dès 9h, on savait qu'il y avait un mort. Donc on voit bien que le rapport à la violence, ça dit aussi quelque chose sur l'état de détermination et le renforcement de la politisation et de la radicalisation d'une partie, ou de la détermination, c'est selon, des gens qui soutiennent ou qui rentrent dans le mouvement.
Alors une inquiétude liée à cette violence par rapport aux conséquences que ça peut avoir sur les personnes, est-ce qu'aussi une inquiétude de cette violence par rapport à l'impact que ça pourrait avoir sur les institutions républicaines et sur la démocratie. Il y a beaucoup de personnalités politiques qui se sont exprimées durant la semaine pour faire des appels au calme. Il y a aussi les dirigeants syndicaux. Peut-être que la prise de parole la plus spectaculaire, ou en tout cas la plus radicale, on va dire, dans l'expression de cette crainte, c'est celle du président du Sénat, Gérard Larcher. C'était avant-hier sur France Inter.
La République, elle est menacée aujourd'hui. Je ne cherche pas à dramatiser. Je ne cherche pas à dramatiser, mais je cherche à responsabiliser les uns et les autres. Les politiques, les corps intermédiaires, les gilets jaunes et tout simplement les citoyens. Vous savez, quand un symbole de la République comme l'Arc de Triomphe, il y a 3 semaines et demie, 80 chefs d'État et de gouvernement étaient autour d'un symbole très fort, le soldat inconnu. Et que nous voyons le spectacle de samedi, si vous ne considérez pas que la République dans ses symboles est malmenée, alors, quel est le sens des choses ?
Est-ce que la République, aujourd'hui, est menacée ? Jérôme Fourquet, évidemment, je poserai la même question à Aude Lancelin et Sylvain Bourmont.
Moi, je n'irai pas jusqu'à cette extrémité-là. On a eu des scènes extrêmement violentes les deux week-ends derniers, mais quand on compare, par exemple, soit à 1968, il y a un bilan humain qui était quand même autrement plus élevé. Si on revient encore dans le même lieu que ce qui s'est passé pas loin des Champs, 6 février 34, il y a 15 morts le lendemain des émeutes. Et là, on cherche véritablement à monter sur ce qu'on appelait à l'époque la Chambre des députés. Donc je ne pense pas qu'on soit encore dans cette extrémité-là, même si...
Quel intérêt aurait le président du Sénat à tenir de tels propos ? Il dramatise pour essayer de...
Je pense qu'il est, en partie dans son rôle, après que sa formation politique est quand même... dit qu'elle comprenait les mouvements, les revendications, a tenu un discours extrêmement dur sur le président de la République, dans son rôle d'essayer de faire baisser la température, parce que comme disait Aude Lancelin tout à l'heure, personne ne sait ce qui va se passer demain, et quand vous regardez encore les scènes du week-end dernier, et vous entendez le témoignage des syndicats de policiers, on a été à deux doigts de la catastrophe à de nombreuses reprises, donc tout homme en responsabilité, toute personnalité en responsabilité publique, je pense qu'il est de son ressort. Après, de monter tout de suite sur les grands principes sur la République menacée. Alors, on a entendu un certain nombre de représentants des Gilets jaunes qui disaient qu'il faut aller à l'Élysée, etc., etc.
Mais... Oui, parce que c'est peut-être pas que la violence. Est-ce qu'il peut y avoir aussi une partie du projet, en tout cas portée par certains Gilets jaunes, qui pourrait être justement de faire tomber les institutions ? Est-ce que vous voyez ce mouvement comme ça, Aude Lancelin ? Est-ce que vous, qu'est-ce que vous pensez de cette menace telle que l'exprime Gérard Larcher ?
D'abord, permettez-moi de dire que je trouve assez ridicule de s'indigner des graffitis déposés sur l'Arc de Triomphe. Moi, je suis beaucoup plus indignée de voir une joue arrachée par un flashball, de voir des manifestants pacifiques agressés par des CRS, nassés et gazés pendant des heures jusqu'à les rendre complètement fous et à déchaîner effectivement une foule, à provoquer des mouvements de foule extrêmement dangereux, y compris par les forces de l'ordre, certaines de ces forces de l'ordre ayant d'ailleurs dénoncé un syndicat s'est mis en grève, Vigie, et ayant dénoncé ce qui s'est passé à l'Arc de Triomphe et les ordres qui leur ont été donnés. Donc moi, laissons ça de côté. Bon, ce sont les propos d'un sénateur de droite. Il est dans son rôle. Moi, je ne pense pas que, ce qui met en danger la République française depuis des années et ce qui nous confronte aujourd'hui à cette crise, en effet très grave, c'est d'avoir laissé hors de la République des pans entiers de la population. C'est d'avoir enfermé dehors tout un peuple français qui, à partir du 10 du mois, est à découvert. C'est d'avoir accentué une politique économique agressive à leur égard depuis 2017. D'avoir supprimé l'ISF. D'avoir à peu près, au niveau du symbole, aussi bien au niveau que des faits, violenter moralement et économiquement dans son quotidien cette population, au point qu'elle se retrouve désormais, c'est le ressenti qu'on a dans les manifestations, quand on parle à ces gens qui viennent de Bretagne, qui viennent de Normandie, qui viennent de toute la France, au point qu'ils se sentent désormais en état de survie et ils disent « nous serons là », ils disent chaque semaine qui passe « nous serons là et nous serons encore là la semaine prochaine et nous serons là autant qu'il le faudra parce que pour nous c'est maintenant une question de vie ou de mort ».
Sylvain Gourmand.
Je crois que pour analyser ce qui se passe, il faut distinguer deux niveaux. Un niveau social en quelque sorte et un niveau politique. Au plan social, on ne comprend rien à ce mouvement, à mon avis, si effectivement on ne se place pas dans une temporalité longue. Pour arriver à la situation dans laquelle se trouvent les gens qui aujourd'hui sont mobilisés dans ce mouvement, il a fallu non seulement des années, mais il a fallu probablement des dizaines d'années. Donc il y a une tendance longue, et puis il y a un moment, quelque chose, une goutte d'eau, qui fait que c'est la goutte de trop et qu'il y a ce mouvement social. Bon. Si on en était resté là, dans un régime politique qui fonctionne, ce sont des crises relativement classiques qui peuvent être gérées par les organisations politiques, par la démocratie représentative. Le problème, c'est que s'ajoute à ce volet social une crise précisément de la démocratie représentative, une crise de la politique professionnelle qui, elle non plus, n'est pas nouvelle, qui, elle aussi, date. On a dit tellement de choses au lendemain du 21 avril sur cette question. C'était il y a longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Il s'est passé depuis l'élection, par exemple, d'Emmanuel Macron, qui participe du même phénomène, c'est-à-dire d'un rejet de la manière de faire de la politique. Mais un rejet qui est différent, puisqu'il a cherché à s'insinuer dans les formes existantes, même s'il s'est agi de fabriquer un mouvement, un parti en très peu de temps, c'est quand même la forme parti, c'est l'élection présidentielle, ce sont donc les canaux classiques de la politique qui ont été utilisés pour dégager, et ils ont dégagé les deux grands partis de gouvernement qui alternaient au pouvoir depuis tant d'années. Emmanuel Macron a participé de cette destruction dont il imagine qu'elle est une destruction créatrice, pour reprendre l'expression de Schumpeter. Il y a beaucoup de Schum et pas beaucoup de Peter dans l'histoire, parce qu'il y a de la destruction, il y a énormément de destruction. Qu'a-t-il fait pour remplacer, finalement, ceux qu'il entendait remplacer ? Son parti politique, il n'existe pas. Donc, en fait, il se retrouve dans un face-à-face avec le vide politique. Et ce qui rend la situation extraordinairement imprévisible, c'est que, finalement, ces gens, certes, probablement, ont des revendications, on les entend, elles peuvent être très précises sur telle taxe, elles peuvent être plus générales, plus sociales, mais au fond, on ne voit pas vraiment de travail politique, d'articulation idéologique, et donc, on ne voit pas très bien comment, en l'état, dans un calendrier court, en tous les cas, ce mouvement pourrait se prendre les formes de la démocratie représentative. C'est ça qui est très inquiétant à un moment où les organisations politiques classiques sont incapables de formuler la moindre réponse face à ce mouvement, quelle que soit leur origine dans le spectre politique, à gauche, à droite, partout.
Le fait est que dans les revendications, dans les plateformes qu'on peut lire et sur le plan des propositions, des revendications qui sont d'ordre politique, Jérôme Fourquet, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément une demande d'amélioration de ce qu'est la démocratie représentative, mais il y a beaucoup la notion de démocratie directe qui apparaît avec une revendication forte autour d'un référendum d'initiative populaire. Est-ce que vous diriez que, justement, sur le plan politique, c'est un mouvement qui montre qu'il y a une crise de la représentation, ou bien est-ce que c'est un mouvement qui va même au-delà, c'est-à-dire ce serait une crise, presque une crise de régime, une crise institutionnelle qui remet en cause même les principes de la démocratie elle-même ?
Alors, peut-être les principes de la démocratie représentative, mais là, à partir du moment où on demande un recours plus régulier, avec un référendum révocatoire, des consultations plus fréquentes, tout ça s'inscrit quand même dans une forme démocratique, alors qu'il peut ne pas convenir à certains, mais force est de constater que ça renvoie à ça.
Si je vous pose la question, c'est parce que l'IFOP a aussi réalisé des études ces dernières années qui témoignaient d'une demande de plus en plus importante, pas seulement d'autorité, mais de gouvernement autoritaire, ce qui semble aller à l'encontre cette demande de démocratie directe.
Oui, alors c'est pas forcément les mêmes.
C'est pas forcément
contradictoire.
Et donc on peut avoir un régime plébiscitaire qui marche pas mal au référendum et qui s'incarne avec une personnalité forte. Sur l'aspect démocratique, moi je pense aussi qu'il y a un élément important à regarder, c'est que ce mouvement-là permet à des catégories de la population, les fameux gilets jaunes, quand on regarde, nous, dans nos enquêtes, ceux qui se disent gilets jaunes, on recrute chez les ouvriers, chez les employés, chez les chômeurs, chez les indépendants, commerçants, artisans, agriculteurs. Et c'est toute une population qui n'avait depuis très longtemps plus voix au chapitre. Alors vous allez me dire, elle peut voter, elle vote, mais elle ne se sent plus représentée. Elles ne sont plus représentées. Les personnalités qu'elles envoient à l'Assemblée nationale ou à l'Élysée sont de plus en plus déconnectées de cette France-là. On le voit aussi sur le plan médiatique. Il y a eu le surgissement d'ouvriers, d'employés, d'aides-soignantes sur les plateaux télé depuis ce mouvement-là. Et quelque part aussi, voilà, c'est une prise de parole et le réveil d'une partie de cette population qui veut reprendre quelque part son destin en main. Alors, ça se fait de manière très, très brouillonne. Il n'y a pas de plateforme politique élaborée pour l'instant. Mais on voit déjà que les revendications ont considérablement évolué. Elles se sont structurées. On a commencé sur la taxe sur l'essence. Maintenant, on est à la taxe sur les GAFA, au référendum révocatoire. Donc on voit bien que ça se politise et que ça se conscientise, comme on disait il y a quelques années. Et on peut peut-être aussi faire un parallèle avec ce qui s'est passé il y a une quinzaine d'années en Italie, autour du mouvement 5 étoiles, avec, bien sûr, il y a des différences culturelles, et c'est pas exactement les mêmes contextes, mais on était face à un régime de parti qui était à bout de souffle. L'opération main propre en Italie avait décimé la classe politique italienne, il y a Berlusconi qui était sorti là-dedans, et puis on avait un autre pôle qui, sur un anti-parlementarisme, sur une vision très très basiste, s'est développé, alors autour d'une figure emblématique, Beppe Grillo. Il n'existe pas aujourd'hui en France, mais vous regarderez sur les réseaux sociaux qui gravitent autour des gilets jaunes que la figure de Coluche revient avec insistance parce que Coluche aurait pu peut-être pour certains faire office d'un grillot français. Et donc il y a des formes comme ça très très diverses. D'aucuns parleront de populisme, etc. Il y a aussi des militants très actifs qui ont essayé d'investir ce mouvement-là et de l'orienter selon leur tropisme. Mais la demande générale, c'est à mon avis, de plus grandes consultations, une plus grande prise en main du destin par une population qui se sent socialement et politiquement hors du coup depuis très longtemps maintenant.
Sur cette coexistence d'une demande de démocratie directe et peut-être aussi d'autoritarisme, je voudrais juste vous citer un extrait d'une interview de Jacques Julliard dans l'Obs qui dit ceci: « Cette crise montre l'acuité du problème de la représentation. Aujourd'hui, on ne représente que soi-même. Il ne reste alors plus que l'appel à l'homme providentiel doté d'une représentativité quasi transcendante. » La journaliste lui demande, là où les journalistes, une sorte de dictateur en somme. Il répond: « C'est en tout cas dans la logique de la situation. » Aude Lancelin et Sylvain Bourmeau.
Alors justement, moi j'aimerais revenir au titre de l'émission choisie aujourd'hui. Les Gilets jaunes veulent-ils plus de démocratie ou veulent-ils moins de démocratie? J'attire quand même votre attention sur une chose. Tout dépend évidemment de ce qu'on entend par système démocratique. Il y a quand même très longtemps qu'on nous met dans la tête que le système représentatif qui consiste tous les 5 ans à se rendre à l'isoloir et le parangon même de la démocratie. Or, pour tous les penseurs politiques de la Révolution française, par exemple, la représentation est le contraire de la démocratie. Et notre régime politique actuel est une forme de compromis historique entre des demandes populaires et un pouvoir oligarchique. Mais nous ne sommes pas au sens strict, au sens, là je parle de philosophie politique, dans une démocratie. Donc effectivement, oui, moi je suis convaincue que quelle que soit l'hétérogénéité politique des Gilets jaunes actuels, qui est incontestable, parmi les gens que j'ai interrogés moi personnellement sur les Champs-Élysées, il y a très peu de militants, et très peu de militants de gauche notamment, très peu de gens pour qui la France insoumise représente quelque chose, etc. C'est très très frappant.
Mais juste, Lancelin, est-ce que ça n'est pas consubstantiel à la démocratie que d'être forcément et toujours imparfaite? Ou bien est-ce qu'on peut citer des exemples d'une démocratie qui serait réalisée pleinement?
C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous prenez les chiffres de l'abstention à la dernière élection présidentielle, on n'est pas dans l'imperfection. on est dans le fait que la partie, la majeure partie des ouvriers, des employés dont parlait à l'instant Jérôme Fourquet, du pays, des gens qui font vivre ce pays, sont hors de l'échange politique. Ne se sentent même plus concernés par les débats politiques. C'est d'une gravité extraordinaire. C'est ça la crise que nous vivons. Et j'aimerais tout de même rappeler, parce que beaucoup de journalistes, malheureusement, beaucoup de nos confrères ont dénigré ce mouvement précocement, préventivement peut-être, en les faisant passer justement pour des putschistes, des gens qui étaient en demande de pouvoir militaire, des fachos, etc. Moi, j'aimerais vous
rappeler... Ils sont quand même assez vite ravisés. Hein. C'est vrai que c'est au début, on a peut-être pas entendu ça. Mais...
Certains ne se sont toujours pas ravisés.
Il y a toujours des irréductibles.
Et puis bon, effectivement, quand on est confronté au réel, bon, effectivement, on est obligé d'accommoder. Mais moi, j'aimerais vous dire quelque chose que je tire justement de l'avant-dernière enquête de l'IFOP. Dirigé par Jérôme Fourquet à côté de moi, qui s'intitulait « Le regard des Français sur le mouvement des Gilets jaunes ». Et la question suivante était posée à l'ensemble des formations politiques. L'adhésion à l'instauration d'un état d'urgence. Personnellement, êtes-vous très favorable, assez opposé à l'instauration de l'état d'urgence ? C'est-à-dire quand même la suspension de certaines normes du droit ordinaire. Je vous l'ai dit ce soir, 74% des sympathisants de La République En Marche sont favorables à l'état d'urgence, c'est-à-dire beaucoup plus que ceux du Front National. 51% seulement des membres, des sympathisants du Front National sont pour cette mesure. Cela en dit très long sur le rapport à la démocratie au sein d'un certain électorat bourgeois, cadre sup, qui finalement s'accommoderait très bien d'un ordre impitoyable quand il s'agit de mater les classes populaires.
Juste un mot très court avant de redonner la parole à Sylvain Bourmeau, Jérôme Fourquet, justement sur cette enquête,
oui,
sur
non, ce qu'en dit Aude Lancelin. Donc c'est une enquête qui a été faite après les émeutes qu'a connu Paris. Et donc, dans le débat public, certains responsables politiques avaient émis l'idée de avoir recours à l'état d'urgence comme on l'a eu à d'autres moments de notre histoire pour essayer de reprendre entre guillemets le contrôle, et donc on a testé cette idée. Pour compléter ce que disait Aude Lancelin, on est sur une opinion publique dans sa globalité qui était très partagée, aux alentours de 50-50, et donc on revient peut-être à la question initiale, est-ce que la France a peur? Oui, en partie, parce que les scènes sont quand même assez spectaculaires, mais pas forcément au point d'en être à demander très majoritairement l'instauration de l'état d'urgence. On était dans des niveaux bien plus élevés d'adhésion à l'état d'urgence, par exemple au lendemain du 13 novembre, hein, qui n'a rien à voir, mais pour montrer que, et c'est peut-être aussi ce que disait M. Bourmeau tout à l'heure, c'est quand même assez insaisissable ce moment, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont très spectaculaires, et en même temps, effectivement, le reste de la semaine, les choses reprennent qu'un cas leur cours, et donc on n'a pas l'impression qu'on soit proche du basculement, même si, encore une fois, certains événements ont été très marquants.
L'enseignement que j'ai envie de tirer de ce chiffre, 74% des sympathisants de La République En Marche, si on peut s'appuyer sur ces chiffres, qui seraient favorables à l'état d'urgence, c'est le suivant, c'est que, mais c'est pas une surprise pour moi, hélas, c'est qu'au fond, le libéralisme politique, c'est-à-dire la défense des libertés publiques, elle est aujourd'hui le fait de très peu de citoyens français. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la montée en puissance de cet illibéralisme politique, aussi bien à gauche qu'à droite, et même chez Emmanuel Macron et ses sympathisants, c'est-à-dire des gens qui se sont présentés, qui ont été présentés comme des libéraux politiques, comme des libéraux économiques et des libéraux politiques. C'était ça, le positionnement pendant la présidentielle d'Emmanuel Macron. On nous expliquait qu'il allait certes mener une politique néolibéral au plan économique, mais qu'il allait avoir une politique libérale, qu'il allait accueillir les migrants, qu'il allait, etc. Il n'en est rien, évidemment, parce qu'on le sait bien, beaucoup de travaux de sciences politiques ont montré à quel point ce qu'on appelle néolibéralisme n'a rien à voir avec le libéralisme politique, et que souvent il s'assortit d'autoritarisme politique, et on en a eu de nombreux exemples dans de nombreux pays, et on en a une nouvelle fois la démonstration avec ce gouvernement.
Est-ce qu'on en a aussi la démonstration avec le mouvement des Gilets jaunes? Alors, c'est-à-dire, est-ce que vous voyez des signes de cet illibéralisme politique également dans ce mouvement?
Oui, j'en perçois certains dans la manière dont certains rond-points sont bloqués, la façon dont les gens veulent imposer finalement des barrages, empêcher la liberté de circulation, des choses comme ça. Ça veut dire que c'est des formes de manifestation, mais je crois que c'est au-delà de la forme de manifestation. Il y a quelque chose d'assez inquiétant. Il y a probablement parmi ces gens mobilisés, mais c'est très, je veux prendre beaucoup de pincettes parce que on dispose de peu d'éléments pour mieux savoir qui ils sont. Je pense quand même qu'on peut faire des hypothèses et je pense qu'on peut faire notamment l'hypothèse qu'il s'agit ni de ceux que Céline Braconnier ou Nana Mayer ont appelés les inaudibles, c'est-à-dire des gens qui sont des ultra précaires de la politique, des gens qui ont arrêté de voter depuis longtemps, par exemple. C'est ni ceux-là, ni ceux qui ont une socialisation politique encore forte avec une identification partisane. C'est probablement des électeurs dont les carrières d'électeurs sont pour le moins surréalistes ou baroques pour un sondeur. C'est-à-dire que on est loin de l'électeur rationnel qu'on nous a vanté dans les années 80. On va avoir des gens qui sont incapables de justifier leur parcours d'électeur ou alors parce qu'ils ont un rapport à la politique qui n'a rien à voir avec le rapport que nous, analystes, avons. Et donc, ce serait une grave erreur que de plaquer nos catégories rationnelles d'analyse sur les leurs. Donc, je crois que ce sont des gens qui ont très peu d'expérience politique. Ils ont voté, ils continuent de voter pour beaucoup d'entre eux. Et je pense d'ailleurs que l'abstention, c'est inquiétant l'abstention, mais on ne peut pas réduire la démocratie aux élections. Je crois qu'on sera d'accord là-dessus. Et la solution à la crise de la démocratie représentative, c'est pas seulement de faire en sorte que les gens votent davantage une fois tous les 5 ans à l'élection présidentielle, parce que d'ailleurs c'est ce qui s'était produit quand c'était Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal par exemple, parce qu'on avait un certain type de politique spectacle qui faisait que plus de gens votaient. Est-ce que c'est vraiment ça l'amélioration de la démocratie? Moi je pense que l'amélioration de la démocratie, c'est d'abord la reconstruction des corps intermédiaires, des syndicats qui existent, qui sont forts, des partis politiques qui font leur travail de partis politiques, toutes choses qui ont quasiment disparu aujourd'hui.
Aude Lancelin et ensuite Jérôme Fourquet.
Oui, juste une réponse à ce que dit Sylvain. Là, pour le coup, nous étions sur le terrain. Moi, j'ai interrogé des dizaines et des dizaines de gens pendant 2 week-ends consécutifs. C'est ce qui est très frappant. Première chose, c'est que ce sont des primo-manifestants, des gens qui ne sont jamais descendus dans la rue de leur vie, quel que soit leur âge, hein. Qu'ils aient 25 ans ou qu'ils en aient 65.
Ça veut dire même entre les deux tours de 2002,
oui.
Même après les attentats.
Absolument, absolument.
Non, mais ça en dit long.
Absolument.
C'est quand même des moments où il y avait beaucoup de monde dans
oui,
la rue.
Oui, mais place de la République, au moment des attentats, les classes populaires étaient très peu représentées. On a parlé, certains ont osé parler de l'absence des quartiers populaires.
Non, mais contre Jean-Marie Le Pen en 2002 aussi.
Également. Et deuxième chose, ce qui m'a énormément frappée aussi, ce sont des gens qui n'ont pas voté à la dernière élection, ou ont très rarement voté à la dernière élection, en tout cas affirment ne pas avoir voté à la dernière élection.
Ils oublient vite, parfois.
Et pour certains, ont voté Emmanuel Macron à la dernière élection.
Il y en a probablement plus qu'on croit.
Ont voté Emmanuel, c'est très très impressionnant, j'ai eu plusieurs cas, et sont extrêmement en colère notamment contre les médias, ils font le lien directement, et disent très clairement, nous avons élu Macron parce qu'on nous a fait une promesse de nouveauté, de jeunesse, de changement. Nous l'avons élu pour nous aider, pas pour nous torturer. Au niveau de...
L'effet boomerang est manifeste
dans ce que vous dites. Oui, absolument. Et je le dis donc à Sylvain, très beau, énormément d'abstentionnistes dans la rue en ce moment.
Jérôme Fourquet.
Juste pour apporter un petit bémol sur les chiffres que l'IFOP a produits. Là, le 74% de sympathisants de La République En Marche qui seraient favorables à un état d'urgence, c'est pas dans l'absolu, hein. C'est, l'enquête est réalisée à un moment donné, c'est après les violences, ils sont pas en permanence sur cette ligne-là. Voilà.
Sur la réponse qui peut être donnée aujourd'hui, et notamment la réponse institutionnelle, est-ce que vous considérez, ce sera ma dernière question parce qu'on est déjà presque au bout de l'émission, que les institutions, en tout cas, offrent aujourd'hui des outils qui permettent justement de régler cette crise de manière démocratique, je ne sais pas moi, soit à travers référendum, soit à travers la dissolution, soit à travers simplement, je ne sais pas, le changement de gouvernement, ou bien est-ce que c'est déjà quelque chose qui est dépassé, Jérôme Fourquet ?
On voit que le mouvement a énormément muté et très très rapidement. Hein, donc quand Édouard Philippe a fait ses annonces, la réponse sur les barrages est trop peu, trop tard. hein, donc la crise galope devant lui. Donc les demandes sont énormes. Comme ça a été rappelé, on vient de très loin quand même. Hein, c'est tout un phénomène de dépolitisation, de désocialisation, etc. Donc ça ne va pas se régler d'un coup de baguette magique. Et donc il faut être très modeste sur les solutions. Moi, il y a une certitude, c'est que le changement de Premier ministre issu qui se profile éventuellement et le changement de gouvernement ne réglera absolument pas, ne répondra absolument pas la demande qui émanent de ces catégories-là. Et encore une fois, ce n'est pas toute la France et ces catégories-là. Aujourd'hui, dans les manifestations sur les barrages, on n'entend jamais Philippe démission. Hein, on entend Macron démission, mais pas Philippe démission.
Ce n'est peut-être pas d'ailleurs seulement une réponse d'ordre politique qui est attendue. Hier, on faisait une émission, on a tenté une hypothèse de savoir si le malaise social qui s'exprimait à travers ce mouvement des Gilets jaunes pouvait être aussi correspondre au malaise qui peut exister dans le monde du travail, puisqu'on oui, parle aussi souvent sûr. Beaucoup d'un manque de considération, un manque d'écoute. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi une responsabilité beaucoup plus large, finalement. Non
alors, oui. Alors, pour aller un peu plus loin encore, sur l'effet de la situation qui prévaut depuis une trentaine d'années, ce qui est très fort, c'est que manifestement, il y a un véritable problème de pouvoir d'achat dans ces catégories de la population, mais que le problème de pouvoir d'achat, pour ces catégories-là, aujourd'hui, ça se règle par une baisse des taxes et pas par une augmentation des salaires. Parce qu'ils ont intégré qu'il n'y avait plus possibilité d'augmenter des salaires. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est un coup de pouce au SMIC qui serait décidé par les autorités. Mais donc, vous voyez que sur le front des entreprises, il n'y a pas de mouvement de grève pour l'instant. Peut-être qu'il en sera différemment dans quelques temps. Mais pour l'instant, il n'y a pas de mouvement de grève qui se dessine. C'est d'abord en direction de la puissance publique sur le poids de la fiscalité que les regards se tournent.
S'agissant de la réponse institutionnelle, Dancelin et Sylvain Bourmeau.
Alors, c'est ce qui m'inquiète le plus, à vrai dire. C'est-à-dire que je pense que la seule réponse en termes de politique classique, de politique ordinaire, qui sera à la mesure de la gravité de cette crise, c'est une dissolution de l'Assemblée nationale. Macron ne s'en tirera pas à moins. Un changement de Premier ministre, de gouvernement ne résoudra pas l'affaire. Je ne suis même pas sûre qu'un rétablissement de l'ISF, qui est totalement improbable, hein, à mes yeux totalement inimaginable dans le cadre intellectuel de Macron, je ne sais même pas au point où nous en sommes si ça reste à faire. Donc, dissolution de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui se passe derrière? Le problème, c'est que derrière, tous les partis politiques à l'heure actuelle sont discrédités. Les Républicains sont discrédités, sont très mal à l'aise par rapport au mouvement qu'ils ont soutenu, puis ils se sont retirés par amour de l'ordre, etc. Et ils n'ont pas de proposition politique pour faire face. La France insoumise est en mauvais état, elle également. La République en marche est totalement discréditée. Et ce serait une explosion de la bulle gonflée à l'hélium, ce scrutin. Le Front National, le Rassemblement National... Mais même lui, à vrai dire, est dépassé par l'ampleur de la crise et tient des discours contradictoires. Je ne suis même pas sûre que ce serait une vague lepéniste. Donc on ne sait pas ce qu'il y a derrière politiquement. Les syndicats ne maîtrisent plus rien. Philippe Martinez le disait très clairement dans Le Monde aujourd'hui même. Les partis ne maîtrisent plus rien. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est une forme de saut dans l'inconnu.
Sylvain Bourmeau, ce sera la conclusion.
Et c'est le résultat d'un choix de destruction qui se voulait créatrice d'un mouvement social totalement inédit, qui nous place dans une situation totalement imprévisible. Je n'ai pas pour habitude de prédire ce qui va se passer, mais alors là, je suis incapable d'envisager même plusieurs scénarios, si ce n'est celui d'un essoufflement de ce mouvement, la stratégie du gouvernement qui a consisté à faire peur avec les violences, peut-être va-t-elle produire ses fruits, et si l'on voit demain dans Paris que des casseurs et pratiquement plus de gilets jaunes, peut-être que ce mouvement commencera à décliner et que le gouvernement s'en sortira comme ça, mais j'en suis vraiment pas sûr.
Ce dont on est certain, c'est qu'on n'a pas fini d'en parler, en tout cas de ce mouvement. Merci beaucoup à tous les trois, Jérôme Fourquet, Aude Lancelin et Sylvain Bourmeau, puisqu'on s'intéressait ce soir aux questions de démocratie. Je renvoie au tout dernier numéro de papier, la revue de France Culture, c'est le numéro 27, avec comme dossier une question: sommes-nous encore
démocrate. Voilà, merci à l'équipe du Grain, Antoine Dulster, Fanny Richet, Antoine Tricot, Virginie Ledoux et Guillaume Laguigné. Émission réalisée par Peyré Legras avec à la prise de son Benjamin Vignal, Stéphane Desmonts, Célia Dufour et Tahar Bouklifa. Dans quelques petites minutes, vous retrouverez la dispute avec Arnaud Laporte. Rebonsoir Arnaud.
Bonsoir Hervé. Demain à midi, on retrouve Hervé Gardette pour Politique.
Voilà, on va parler des droits de l'homme. Vous savez que c'est le 70e anniversaire lundi de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On va en parler avec une magistrate, Magali Lafourcade, qui est la secrétaire générale de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme.